Bonjour à tous et bienvenue dans Analyse F1 et plus précisément dans High Speed Dating, le troisième numéro, cette fois-ci consacré à Fernando Alonso, le tigre des Asturies. Un grand pilote donc, un double champion du monde, hein. Nous avons vu un quadruple champion du monde avant, un triple champion du monde, maintenant un double. Et donc ensuite, hein, vous l'avez deviné, ce sera les champions du monde simples qui seront à l'honneur avant de parler d'autres pilotes qui ont quand même eu des belles carrières, puis des pilotes qui en ont eu des moins belles malheureusement. Notamment parce qu'ils sont plus jeunes, hein, et aussi il faut le dire. Mais voilà, aujourd'hui c'est consacré à Alonso et on va pas trop tarder en fait, on va commencer directement. Alors, Fernando Alonso, il est né le 29 juillet 1981, donc aujourd'hui il a 34 ans. Il est né à Oviedo, dans les Asturies, hein, vous l'aurez deviné, le pourquoi du comment de son surnom. Donc c'est en Espagne. Donc voilà, c'est vraiment une autre génération qu'Hamilton et Vettel. Ce qui est intéressant pour un peu voir les différences à l'époque en termes de suivi de carrière, en termes d'intitulés de compétition, qui n'étaient pas les mêmes. Hein. Je rappelle, hein, Hamilton-Vettel, c'est plutôt un peu plus dans les années 80, un peu plus avancé, entre 85-90, on va dire. Là, c'est début des années 80, l'année de naissance d'Alonso, donc ça change. Donc sans plus tarder, par quoi il a commencé Alonso? Je vous le donne, Émile, comme dirait Coluche. C'est le karting. Le karting, comme tous les pilotes, sauf exception, je pense, mais comme la majorité des pilotes, donc à 3 ans. Et oui, à 3 ans, là, c'est très jeune. Il fait ses débuts dans un kart construit par son père. Mais à l'origine, c'était pas pour Fernando. C'était pour la sœur de Fernando que son père avait construit le kart. Sa sœur qui avait 8 ans à l'époque, mais qui, voilà, qui n'était pas passionnée plus que ça par le karting. Ça lui plaisait, la course automobile lui plaisait pas non plus tellement. Et du coup, son père a adapté le karting pour que ça aille à Fernando qui était, qui avait envie d'être dans le kart. Hein. C'était un jouet au début et puis bien vite, ce ne sera pas qu'un jouet. Donc voilà, son père lui a transmis, on va dire, sa passion pour le karting. Et en 1988, il y a les début des compétitions pour Alonso, donc à l'âge de 7 ans. Et il faut rappeler que son père, d'ailleurs, qui voulait transmettre la passion du karting, sera le mécano d'Alonso pendant quelques années, ses premières années de karting. Et en 88, donc à 7 ans, il gagne sa première course de karting et puis bien d'autres, puisqu'il remporte toutes les courses du championnat, les 8 courses Fernando. Donc là, on voit qu'il a un certain potentiel déjà, et il doit aller plus loin. C'est le ressenti général dans sa famille, le sien aussi, puisque voilà, plus qu'un jouet maintenant, c'est vraiment un outil de compétition, et c'est le début de la machine qui est en marche, la machine Alonso. En 1990, en catégorie cadet, puisque en 88, c'était la catégorie encore inférieure. En catégorie cadet, il gagne des trophées dans les Asturies, donc dans sa région natale, et dans le Pays Basque également. Et là, on se rend vraiment compte que il pourra aller encore plus loin, c'est-à-dire au niveau national. Seulement, pour aller au niveau national, il faut des fonds que ne peuvent se permettre ses parents, et du coup, ça ne tient qu'à lui. Ça ne tient qu'à Alonso et à ses performances pour aller plus loin. Et on connaît la suite, c'est-à-dire qu'Alonso a fait le boulot, a été vraiment exceptionnel, et il devient petit à petit, avec justement même ses performances en karting, hein, qui commencent à faire parler, surtout après au niveau national. Mais après avoir été, on va dire, l'enfant d'une région, il va commencer à être l'enfant prodige de tout un pays, de toute l'Espagne. Mais là, c'est vraiment que les prémices. Hein. Après, ça va être encore plus fort. Hein, et c'est ça qui fait aussi le succès d'Alonso et le fait que ce pilote ait un retentissement assez exceptionnel dans le sport automobile, et en particulier en Espagne. C'est ça, c'est son inspiration. En 1991, grande année, vous le savez, il est vice-champion d'Espagne. Donc voilà, il accède au niveau national. Et là, en 1991, cette même année, il fait une rencontre avec une personne importante du milieu. Et d'ailleurs, cette personne importante le met à l'essai en karting pour voir si, justement, il pourrait amener plus loin le jeune Fernando. Et c'est le cas, le test est une grande réussite, c'est vraiment un moment charnière. D'avoir ce genre de test avec une personne influente, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un moment charnière dans une carrière, même si jeune, hein, c'est très important. Mais ouais, si jeune, c'est vrai qu'il a que 10 ans, et déjà il est dans un moment charnière, ça explique aussi pourquoi à chaque fois c'était le plus jeune, parce que oui, il y avait un autre fait qui impressionnait à l'époque. avant cette rencontre avec cette personne, mais aussi après, et bien après en Formule 1, c'est que ça a toujours été le plus jeune de sa catégorie, hein. Jusqu'à un certain point, évidemment, en Formule 1, mais généralement, en karting et en monoplace, c'était généralement, il faisait partie des plus jeunes, ou c'était le plus jeune de sa catégorie, et le plus victorieux quand même. Donc, c'est en effet impressionnant pour l'époque. On n'était pas habitué à des performances pour comment dire, des pilotes si jeunes à l'époque. Donc c'est à noter. Entre 1993 et 1996, voilà, il y a le niveau national et le niveau européen et le niveau mondial qui entre en jeu. Donc, la rencontre qu'il avait faite en 91 l'a bien servi. Il gagne 4 championnats d'Espagne de suite, donc dans cette période. En 1995, il participe à un championnat mondial, le championnat mondial CIK FIA Cadets Rainbow Trophy, où il termine 3e de ce championnat mondial, donc c'est une bonne performance. 1995, il a donc 14 ans. À cette même période, autour de l'année 95, il fait le mécanicien pour les plus jeunes pilotes, pour les aider tout d'abord, et aussi pour gagner des sous, pour pouvoir continuer dans sa carrière. C'est important parce que certes, là, à cette époque-là, il a déjà des sponsors, il a déjà des soutiens, mais voilà, ça suffit pas non plus énormément. Il faut quand même que lui-même, il gagne des sous personnellement. Et c'est ce qu'il fait en faisant le mécano et en aidant les plus jeunes pilotes espagnols. Donc là, déjà, c'est le début de l'inspiration parce que déjà, avec ses performances passées, eh bien, les jeunes pilotes peuvent déjà s'identifier à lui et vouloir aller à ce niveau. Donc déjà, pour la filière espagnole des jeunes pilotes, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ça va amener ben, une génération à une génération de, comment dire, d'amoureux du sport auto de manière générale. Mais là, en commençant vraiment par ceux qui sont dans le milieu. En 1996, donc l'année suivante d'avoir été troisième d'un championnat mondial de karting, cette fois-ci, il remporte une couronne mondiale. C'était pas la même compétition, c'était la CIK FIA Five Continents Juniors Cup. Donc voilà, la coupe junior des 5 continents, si on veut traduire. Et de là, évidemment, ça amène encore plus de sponsors. Et les années suivantes, il gagne encore plus de titres de karting. Je vais pas tous vous les faire, hein, ça ne sert à rien d'être trop exhaustif, hein, sinon ça va vous bourrer le crâne, je pense. Mais en gros, il a gagné encore pas mal de titres de karting à différents niveaux de compétition, dont Paris-Bercy, le prestigieux Paris-Bercy. D'ailleurs, ben, pour ceux qui regardent le trophée de Paris-Bercy de karting, vous vous souvenez peut-être de l'avoir découvert à ce moment-là. C'est fort possible, fort probable. D'ailleurs, c'est fort probable que je l'ai vu quand j'étais petit, durant cette compétition, mais je n'ai pas vraiment de souvenir de cela. Et là donc on arrive en 1999 et déjà il entre en monoplace, il a 18 ans. Donc aujourd'hui entrer en 18 ans en monoplace, c'est la moyenne, mais à l'époque c'était très jeune. C'était très jeune et direct il commence par les Euro Open by Nissan. Donc voilà, c'est une compétition qui est assez obscure aujourd'hui, je ne sais même pas si elle existe encore. Je ne me suis pas renseigné là-dessus, mais en tout cas qui n'est plus plus usité comme une grande compétition d'accès à d'autres catégories. C'est une compétition dans laquelle il y avait, je dis il y avait, mais c'est possible que ça soit il y a également, mais il y avait en tout cas la majorité des courses en Espagne, quelques courses en Italie et en Angleterre, mais pas mal de courses en Espagne. Il termine premier de cette Euro Open by Nissan, et notamment dans ce championnat, il y avait également Giorgio Pantano, qu'on verra également en F1 dans le futur. Dans le futur de 99, hein, pas dans le futur après 2015, hein, vous avez bien compris, évidemment. Donc voilà, et ce qui l'amène à se faire voir encore plus, déjà qu'il s'était fait voir en karting, là en monoplace il remporte un titre dès sa première année, et donc Minardi va lui accorder, dès l'âge de 18 ans, donc à la fin de la saison 99, un test. Et durant ce test, eh ben, il explose les autres jeunes pilotes, plus d'une seconde et demie devant tous les autres jeunes pilotes qui participent à ses essais avec Minardi. Donc là, on voit que le petit Alonso, qui n'est plus si petit que ça avec ses performances, a de l'avenir et sera sûrement en F1 dans les années à venir. Il plaît, il se montre et il commence à avoir un pays derrière lui. Là, vraiment, ça commence à monter la ferveur espagnole, le sang chaud. En plus, il a vraiment ce sang chaud, Alonso. Donc, il inspire pas mal, il peut pas mal inspirer ses compatriotes avec ça. Donc, c'est pas mal, ça commence. Et en 2000 d'ailleurs, il va directement entrer en Formule 3000. qui était l'antichambre de la F1, maintenant c'est plutôt le GP2, mais avant c'était la Formule 3000, souvenez-vous, pour ceux qui ont connu cette époque, et je l'ai connue. Donc c'était une belle compétition, hein. Quoi, un peu comme le GP2, quoi. C'est très intéressant à chaque fois de voir peut-être les futurs pilotes de F1, c'est de la curiosité, on va dire, hein, de la curiosité. Et donc il finit quatrième de son championnat, donc on pourrait se dire c'est ouais, quatrième, c'est pas exceptionnel. Mais dans ce championnat, il y avait Mark Webber, Justin Wilson, Sébastien Bourdais, Franck Montagny, Stéphane Sarrazin et Christian Albers. Donc une petite promo sympa, hein, sympathique, hein, avec quelques pilotes assez connus, qui seront assez connus. Donc c'est pas mal. Il finit quatrième, mais pas dans n'importe quelle écurie. Il n'était pas dans une écurie de pointe à l'époque, hein, il faut le noter. Il faut le noter parce que quand on regarde les performances de ses coéquipiers, eh bien tout simplement, ceux-ci peinaient à marquer des points ou même simplement à finir les courses. Alors qu'Alonso, il est rentré 3 fois dans les points. C'était dans une compétition où il y avait 8 courses, hein, je le rappelle, 8-9 courses environ. Il est rentré 3 fois dans les points, sachant qu'il fallait finir dans les 6 premiers pour entrer dans les points. Donc il faut augmenter cette performance quand même. Aujourd'hui, on dirait, oh, il serait rentré que 3 fois dans les points. Forcément, vu que c'est les 10 premiers qui rentrent dans les points. Mais là, dans les 6 premiers, quand tu entres 3 fois dans les points dans une écurie pas très bien dotée financièrement, etc., c'est pas mal, sachant que les coéquipiers ont été plutôt médiocres par rapport à Alonso. Ça sera une ligne de conduite pendant le reste de sa carrière, ça, les coéquipiers qui sont médiocres comparés à Alonso. Ça, on va le citer évidemment, c'est très important dans sa carrière, on peut pas l'omettre. Et donc, parmi ces 3 entrées dans les points, il finit. Ben, une fois deuxième, et surtout il remporte une victoire. Les 2 dernières courses de la saison, deuxième place et une victoire. Donc c'est noté. C'est là qu'il s'est fait aussi pas mal remarquer et il a fini les courses contrairement à ses coéquipiers. Donc après seulement 2 ans monoplace, le voici à entrer en F1. Et oui, seulement 2 ans. C'était quand même très très unique à l'époque et même pour aujourd'hui, c'est pas très commun de faire seulement 2 ans avant l'entrée en F1. Et ça rappelle, le cas de Fernando Alonso me rappelle pas mal le cas de Max Verstappen aujourd'hui. Et vous le rappellera également, vu que Max Verstappen, je vous le rappelle, n'a fait qu'une seule saison en monoplace avant d'entrer en F1. Bon, évidemment, c'est quand même moins gros quand même. Là, Alonso est plus âgé, a quand même 1 an de plus dans une formule et en plus dans la formule d'accession directe à la Formule 1. Donc c'est quand même un peu différent, mais ça se rapproche via certains points, seulement 2 ans, et un pilote très jeune puisqu'il entre en F1 à 20 ans. Donc je crois que c'était un des plus jeunes à l'époque à rentrer. Je crois que le plus jeune c'était Button à entrer en F1 à l'époque. Mais voilà, c'est un des plus jeunes en tout cas. Il entre chez Minardi, chez qui il avait fait des tests, chez qui il avait plu, et donc Minardi était tombé sous le charme du pilote espagnol et a eu bien raison. Durant cette saison, il ne fait pas grand-chose, hein, la Minardi était vraiment faible, hein. Donc il ne fera pas mieux qu'une 10e place, mais il arrivera à se montrer via quelques coups d'éclat en qualification, également en course, dans le peloton, donc c'est intéressant. Et donc il se fait repérer surtout par son manager. Je ne sais pas si c'était déjà son manager à l'époque du Minardi ou s'il l'est devenu après, mais Flavio Briatore voit en son poulain Fernando Alonso un futur grand pilote, et donc le prend vraiment sous son aile en 2002. Et grâce à ses relations, c'est important, même si Briatore, on peut en dire ce qu'on veut, on peut le détester quelque part par certaines choses qu'il a pu faire et par sa façon de se comporter. Mais en tout cas, avoir une telle personnalité sous son aile, sachant qu'à l'époque, voilà, Briatore, c'était quand même un monsieur qui avait aidé, qui avait été team principal lors des titres de Benetton en 94-95. Donc c'était quelqu'un qui était plutôt très bien coté et qui avait pas mal de relations et de pouvoir dans le milieu. Donc il s'est dit bon, Arne Alonso ça va être mon poulain et je vais le bichonner. Donc il le place chez Renault en tant que pilote d'essai. Donc voilà, c'était un mal pour un bien, c'est-à-dire que c'était une saison vide, une saison comment dire de stand-by pour Fernando et donc mais pas où il n'a rien fait. Aujourd'hui pilote d'essai ça voudrait dire il va faire du simulateur, il va en faire pas mal, il va analyser les datas, il va aider l'équipe, mais il va pas rouler durant des essais privés parce qu'il n'y en a pas ou presque pas. À l'époque, c'est-à-dire en 2002, rien que dans l'année 2002, je vous laisse deviner combien de kilomètres a pu faire et combien de tours de circuit a pu faire Alonso en tant que pilote d'essai. Voilà, je vous laisse 3 secondes, 3 3, 2, 1. Eh bien, oui ou non, ça dépend. Vous avez peut-être deviné ou pas, mais c'était des milliers de kilomètres. Fernando Alonso a des milliers de kilomètres au compteur en 2002, ce qui lui donne une expérience énorme au sein de Renault, et il a pas mal aidé à développer eh ben, ce qui sera sa, son cheval de bataille, ce qui sera son char d'assaut quelque part pour les titres. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et donc, entre 2003 et 2006, en 2003, eh ben, Briatore prend la décision d'écarter Jenson Button de Renault pour y placer Alonso. Donc c'est une décision qui a fait parler à l'époque, évidemment, parce que Button était vu comme également un jeune prodige, et pour cause, hein, vu le reste de sa carrière. Mais voilà, Alonso est placé, et il donnera raison à Briatore, puisque voilà, dès la première saison chez Renault, il y a les premières poles, la première victoire. Et c'est là qu'on a vu vraiment, on a pu confirmer le talent d'Alonso. Et ensuite, ben, on connaît la suite, en 2005-2006, les deux titres de champion du monde. En 2007, il fait le mouvement chez McLaren, il bouge, il change d'air, on va dire, pour voir ailleurs. Et il connaît une saison houleuse parce qu'il y a pas mal eu de démêlés politiques, vous le savez. Si vous avez écouté le podcast de Ghislain, sa première chronique dans Analyse F1, sa toute première, eh bien vous avez pu vous en rendre compte. Une saison très politique où lui-même a aussi été très politique. C'est là qu'il a encore plus divisé, on va dire, qu'il a pas mal divisé chez les fans de F1. Et voilà, il lutte quand même pour le titre cette année-là. Il ne le remporte pas. C'est la seule saison d'ailleurs, c'est la seule saison où il a été vraiment inquiété par un coéquipier et par un rookie en plus, par Lewis Hamilton, ils marqueront tous les deux le même nombre de points cette année-là. Et d'ailleurs, la rivalité entre les deux, ça a amené des tensions supplémentaires que McLaren n'avait pas besoin vraiment à l'époque. En 2008 et 2009, il revient chez Renault, mais dans une Renault apathique, assez faible, mais il fera quand même des performances assez énormes dans cette monoplace qui n'était pas une monoplace qui allait lutter pour le titre. Il fait quand même des grosses performances et il montre à quel point il est très fort, tout simplement. C'est un pilote qui fait partie des meilleurs. Ce sera encore plus le cas chez Ferrari entre 2010 et 2014, où il luttera pour le titre deux fois en 2010 et 2012. Mais même quand il n'a pas lutté pour le titre, il a montré à quel point il était acharné, il a montré à quel point il ne lâchait rien au volant d'une monoplace, et à quel point il pouvait optimiser à son paroxysme le potentiel d'une monoplace, et même plus loin, parce que il y a l'aspect humain, l'aspect du pilote qui entre en jeu, et là-dessus, il est vraiment exceptionnel. Et en 2015, et jusqu'à on ne sait pas quand, eh bien, il est chez McLaren Honda, et là, on le voit beaucoup moins en vue, ou en tout cas, sauf quand il fait des déclarations assez fracassantes, notamment au Japon, quand il avait comparé le moteur Honda au moteur GP2. Mais voilà, pour l'instant, ça ne porte pas ses fruits et ce n'est pas du tout de sa faute, même s'il a avoué. Et là, c'est très humble de sa part, c'est très rare qu'il l'annonce ça, mais il a avoué que cette saison, il y a très peu de tours dont il est satisfait, disant qu'il n'est pas satisfait de lui. Et oui, parce qu'en effet, Jenson Button le bat cette saison en termes de points. Bon, c'est une saison un peu particulière, donc on va pas trop revenir dessus, surtout la saison 2007 où il a été inquiété un peu pour la première fois de sa carrière par un coéquipier, mais en 2015 également avec Button. On va revenir un peu plus en détail sur l'image que véhicule Alonso au public durant sa jeune carrière tout d'abord. Comme je l'ai dit, ça a été l'espoir de l'Espagne durant sa carrière en karting et surtout en monoplace, l'espoir, et puis petit à petit, même en Formule 3000, et puis en début en Formule 1, et encore plus évidemment quand il a remporté les titres, ça a été une inspiration pour un pays qui s'est vraiment épris de la Formule 1 grâce à lui. Et ben, c'est dire l'impact qu'il a eu, et évidemment, on doit parler de ce pilote, c'est important de faire ce high speed dating de Fernando Alonso, de le découvrir comme ça, parce que il a eu un grand impact et il faut pas l'oublier, même si aujourd'hui il est beaucoup moins en vue. Il faut pas oublier que c'est un énorme pilote et qu'il a eu un impact dans tout un pays. Donc vraiment, 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 l'Espagne avant, l'Espagne et le sport auto, c'était pas la grande histoire d'amour. Et quand il y a eu Alonso, ça a été l'histoire d'amour. Et on peut le voir. Hein, une très bonne illustration, c'est de voir le Grand Prix de Valence en 2012 que Alonso a remporté. Et là, c'est qu'on voit l'amour réciproque entre un pays et son pilote. Et c'était très émouvant d'ailleurs de voir le tour de rentrer au stand après le Grand Prix, c'était pas mal. Durant ses débuts et ses années du titre, d'ailleurs, pour parler un peu de lui de manière, enfin, pour faire la nuance, parce que tout le monde ne le voyait pas sous le prisme de l'espagnol moyen, c'est-à-dire vraiment passionné et inspiré par Alonso. Eh bien, durant ses premières années, il ne fait pas l'unanimité chez tout le monde, hein. Bon, personne ne le fait, hein, l'unanimité chez tout le monde, mais il faut quand même en parler, parce que c'est un peu à la manière de Vettel, dans le sens où les médias en ont fait un remplaçant de Schumacher avant l'heure, alors même que Schumacher, cette fois-ci, courait encore avec Vettel. Il est allemand, Schumacher ne courait plus, enfin il a fait son retour, mais sur les débuts de Vettel, il ne courait plus. Donc, voilà, il y avait un certain sens, même si c'était un peu trop rapide de faire ça et que les médias en ont trop fait. Mais là, c'était encore pire parce que Schumacher court encore. Donc chez les fans de Schumacher, c'est pas passé, et ils étaient très nombreux, les fans de Schumi et de Ferrari. Et chez les passionnés de Formule 1 également, on a dit, mais il vient juste d'arriver, il a fait un an chez Minardi, qu'est-ce qu'on en fait tout de suite, un remplaçant de Schumacher, il a encore rien prouvé alors que Schumacher, il battait tous les records. Donc c'est mal passé, et c'est bien normal, et en plus c'est d'autant plus mal passé que le caractère d'Alonso n'a pas aidé. Vous savez, Alonso, il peut être arrogant parfois, même encore aujourd'hui, mais à l'époque c'était encore pire, il était jeune, avait le sang chaud, et vraiment on la voyait encore plus cette arrogance, et ça n'a pas aidé du coup à son image. En France, on a une perception un peu différente, une perception encore plus nuancée. Là, je nuance la nuance, puisqu'il était chez Renault, donc une écurie française, et que en France, vous avez peut-être été nombreux à supporter cette équipe française, et donc via cette équipe française, à supporter Alonso. Et donc l'image d'Alonso en France a été plutôt bonne finalement. Puis il avait appris le français vu qu'il était dans une écurie française, et donc ben ça l'a rendu plus sympathique et ça a favorisé tout simplement sa popularité dans notre pays. Alors, pour parler un peu de sa vision dans le paddock, comment il est perçu en termes de pilotage cette fois-ci? Parce que là, c'est en termes d'image, évidemment, mais il faut parler de la piste, parce que c'est le plus important. Eh bien, Alonso, il est connu tout simplement de partout, j'ai envie de dire. Là, ça fait l'unanimité. Il y a seuls quelques marginaux obscurs hein, qui iront dire que c'est pas un bon pilote. Mais il est connu tout simplement comme être un pilote démoniaque au volant. Et là, j'insiste là-dessus, un hein, démoniaque, parce qu'il étouffe ses coéquipiers. Dans toute sa carrière, je l'ai dit et je le répète, il n'y en a que deux et vraiment un qui a résisté, c'est-à-dire c'est Hamilton. C'est Hamilton vraiment qui a su résister à Alonso et on a vu ce que ça a fait. Sinon, tous les autres, bon, à part Button à faible dose, mais tous les autres se sont fait exploser par Alonso et que ce soit sportivement et psychologiquement d'ailleurs. Parce que, voilà, il faut citer l'exemple de Felipe Massa qui a eu beaucoup de mal dans ses années Ferrari, surtout les dernières années. Il a eu beaucoup de mal sur la piste, mais aussi psychologiquement, et ça s'est sorti après quand il a quitté Ferrari pour aller chez Williams, tout simplement. Et donc ça amène à ce point que certes il est démoniaque sur la piste, mais aussi en dehors, parce que le fait que ses équipiers soient étouffés, ce n'est pas juste par les performances pures d'Alonso, c'est aussi parce qu'en dehors de la piste, dans le garage, etc., par ses communications, eh bien, il adopte une posture politique. Et il a une certaine façon de faire dans sa façon de communiquer aussi, où c'est très réfléchi. Et voilà. Et au sein d'une écurie, il sait faire pour que l'écurie soit derrière lui à fond et oublie le coéquipier qui va ronger son frein et va se sentir un peu seul, va se sentir très seul même. Donc voilà, cette façon d'être un pilote politique divise aussi pas mal chez les passionnés de F1. Il y en a qui vont s'en foutre, qui vont dire bon, ce qui compte, c'est juste la piste. Je m'en fous si c'est un pilote politique ou quoi. Il y en a d'autres qui vont dire ouais, c'est quand même moyen de faire ça en termes de manière éthique, de manière morale. C'est pas top et ça me plaît pas. Je me reconnais pas dans ce pilote. Il va y avoir les deux écoles en résumé. Mais pour moi, le plus important, c'est la piste, même si voilà, cet aspect politique est quand même très important, il faut le citer, parce que c'est ce qui fait également de la carrière d'Alonso, c'est ce qui a fait beaucoup parler quand Alonso a quitté Ferrari, on a dit ah oui c'est beaucoup plus sain chez Ferrari maintenant, c'est plus groupé et ce n'est pas juste autour d'un seul pilote, cette fois-ci c'est le groupe qui compte et non pas un seul pilote, et c'est ce qui pose problème parfois avec Alonso. Donc voilà, c'est un point important de sa personnalité, de sa carrière. Mais en piste, par contre, voilà, ben Alonso, il fait l'unanimité tellement qu'à l'époque de Ferrari, eh bien le paddock, quasiment ben, à l'unanimité, le voyait comme étant le pilote le plus fort alors même qu'il ne remportait pas de titre. Durant les années 2005-2006, il n'était pas aussi bien vu. Enfin, il était très bien vu parce que c'était le champion, évidemment, donc c'était le plus fort. Mais il est encore mieux vu à l'époque Ferrari. Et selon moi, ça rejoint ce que je disais quand ce que j'ai dit plusieurs fois dans l'analyse F1, quand j'ai dit que je le voyais comme étant plus fort entre 2010 et 2014 que lorsqu'il était chez Renault pour les années du titre. C'est assez paradoxal, mais pour moi c'est vrai. Il a plus de qualité, il a acquis plus de qualité après que lorsqu'il était à l'époque Renault, il avait encore le sang chaud, il était encore impatient, et il a gagné en maturité et en qualité par la suite. Et malheureusement, ça ne lui a pas servi à avoir plus de titres. C'est pour ça que pas mal disent « Ah ouais, Alonso, il mériterait un titre en plus ». Et oui, certes, mais bon, est-ce que ses choix de carrière ont toujours été bons? Est-ce qu'il ne s'est pas trop obstiné chez Ferrari? C'est la question également, est-ce qu'il a fait le bon choix de partir, de faire le pari McLaren-Honda? Aussi, on sait que McLaren, ils sont très bons pour attirer les pilotes, de par leur histoire, mais voilà, de par le concret qu'ils peuvent proposer, on peut en douter ces dernières années. Voilà, mais en tout cas, ça peut être subjectif, c'est subjectif de le voir comme le meilleur pilote, et on peut pas dire tel pilote c'est le meilleur par rapport à l'autre, mais on peut dire que c'est un des meilleurs sans en douter, parce que les faits sont là, et il y a pas mal de choses que ce pilote fait que d'autres ne font pas. Par exemple, au départ, alors certes, à l'époque de Renault, il bénéficiait d'un système assez, comment dire, que je peux critiquer assez, que je n'aimais pas. En termes d'amoureux de la course, je n'aime pas ce genre de système de départ. Mais hormis ça, quand on enlève ça, on voit qu'Alonso, il a une propension à faire des départs exceptionnels et à finir ses courses de manière exceptionnelle. C'est ce qui lui a valu un peu sa réputation, pas usurpée du tout, de battant, de vraiment un battant en piste, et voilà, un battant au sang chaud, et c'est ce qui est apprécié de la part de pas mal de monde. Qui est apprécié de la part de pas mal de monde. Et depuis cette saison chez McLaren, on parle beaucoup moins de ses qualités, forcément. Et il est pas mal éclipsé par ce qui se passe avec Mercedes, Ferrari, d'autres écuries qui sont plus en vue et qui marquent beaucoup plus de points, et beaucoup plus de podiums et de victoires, et je doute qu'il apprécie ça. D'ailleurs, on a vu au Brésil un bout de sa frustration, déjà qu'on en avait vu au Japon, mais il ne la cache pas, il sait qu'il est frustré, il aimerait avoir une monoplace qui lutte un peu plus, et il espère qu'en 2016, ce sera le cas, et qu'Honda résolve un peu tous les problèmes, et que McLaren s'améliore également. Ça, on verra. Bon, est-ce qu'ils pourront s'améliorer assez pour lutter devant? Ça serait fort, parce que là, il y a vraiment beaucoup à faire, et c'est vraiment dommage, et encore une fois, McLaren déçoit. McLaren déçoit beaucoup. Donc voilà, dans la carrière d'Alonso, on va citer les chiffres, maintenant les statistiques. Donc c'est 252 Grands Prix, 14 saisons, 2 titres de champion du monde, 32 victoires, seulement 22 pole positions. Je dis seulement parce que par rapport à Vettel et Hamilton, Alonso, on peut pas le considérer comme un grand poleman, comme un gars sur un tour qui fait quelque chose d'exceptionnel. C'est un très bon pilote en qualification, mais il n'a pas ce quelque chose en plus qu'ont certains autres pilotes qui vont chercher vraiment des dixièmes et des centièmes exceptionnels. Mais ça reste un très bon pilote, que ce soit en qualification ou en course. Mais voilà, il faut bien remettre les choses aussi dans leur contexte. 21 meilleurs tours en course, 97 podiums. Donc ça, c'est très fort, 97 podiums. Parce que certes, on va me dire, ouais, mais ramener à son nombre de Grands Prix total, ça fait que 4 courses sur 10, alors que pour Hamilton et Vettel, ça fait plus de la moitié, ça fait environ 50%. Là, ça fait 40% environ, 38 exactement. Mais il faut bien se dire que Alonso, il a beaucoup plus de Grands Prix que Hamilton et Vettel. Donc c'est là que 97 podiums, c'est assez fort. Bientôt 100, hein. Est-ce qu'il les atteindra? On ne sait pas. Là, il y a vraiment un suspense. Normalement, vu ses qualités, on pourrait dire oui, mais vu là où il est en ce moment, le doute est permis quand même, hein. Il a effectué 1767 tours en tête, soit 8643 km. Donc ça, c'est pour les chiffres qui vous font tourner la tête. Mais ça va moins vous faire tourner la tête que lorsque je parlais d'Hamilton et Vettel, puisqu'il y a beaucoup moins de kilomètres et de tours en tête de la part d'Alonso. Mais après, il faut bien se dire que Alonso à l'époque, eh bien, il y avait beaucoup moins de grands prix par saison. Lorsqu'il était dans des écuries qui luttaient pour la victoire, il y avait beaucoup moins de grands prix par saison. Et du coup, ben, ça joue énormément, évidemment, dans ces statistiques, dont il faut leur accorder une importance toute relative. Et vraiment, là, quand je parle de ces statistiques, c'est pas pour faire une hiérarchie, c'est vraiment des statistiques un peu marrantes, hein, celles des nombres de tours en tête et des kilomètres. Voilà, c'est vraiment à titre anecdotique. Donc voilà, c'était la très grande carrière de Fernando Alonso qui n'est pas finie. On lui souhaite vraiment, et pour Button également, que McLaren Honda revienne un peu plus sur le devant de la scène, même beaucoup plus, parce que c'est assez honteux ce que McLaren fait à ses deux pilotes. Et là, j'en reparlerai durant un podcast dédié, ça c'est sûr. Mais voilà, Alonso, un très grand pilote, vu de partout dans le paddock et par le public connaisseur comme étant un des plus grands de sa génération, voire le plus grand pour certains. Donc voilà. Et puis qui divise selon son côté politique, qui quand même est quand même très important dans sa carrière, prépondérant. On pourrait dire malheureusement, parce que voilà, ça lui a amené à certains choix, ça a amené à ce que certaines écuries se retrouve dans certaines situations, dont Ferrari notamment. Ses choix de carrière sont également peut-être discutables. Voilà, il y a quelques ombres au tableau, mais au final, quand on se réfère à la piste, eh bien, on voit que Fernando Alonso fait partie des meilleurs. Malheureusement, il n'a peut-être pas le palmarès qu'il mériterait selon son, comment dire, ses capacités en piste. À voir à l'avenir s'il va pouvoir gonfler sa ligne de palmarès d'un titre. En tout cas, s'il ne le peut pas, eh bien, il pourra regretter peut-être d'avoir quitté Ferrari, même si il ne l'avouera peut-être pas. Voilà, c'est tout pour ce podcast. Je vous remercie. N'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à donner votre avis également dessus. J'espère avoir été moins, on va dire, moins hésitant et moins lourd que pendant le podcast sur Hamilton, où là, c'était un peu plus compliqué, hein, dans l'enregistrement. J'étais un peu plus perdu, on va dire, dans mes notes. Là, c'était peut-être un peu moins le cas, n'hésitez pas à me le confirmer. Et sur ce, eh bien, je vous donne rendez-vous au prochain podcast. Et en attendant, vivons notre passion. À bientôt.